est midi 15, le journal de Lydiane Guenat.
Bonjour, le marché concours est de retour. Après 2 ans d'absence, les cavaliers vont pouvoir remonter sur leur cheval dès demain et fêter les retrouvailles avec l'événement incontournable de Seignelay-Gier et ils trépignent d'impatience, vous l'entendrez. Le cinéma suisse est en effervescence à Locarno. Le président de la Fondation romande pour le cinéma en revient. Jacques-André Maire a beaucoup d'attentes en marge de l'application de la Lex Netflix, mais également quelques inquiétudes en matière de fréquentation des salles. Les cyclistes et coureurs à pied vivront leur dernier contre-la-montre au col de Montvoix ce week-end. Cette 16e édition sera la dernière. Le président de la course nous explique pourquoi dans le Point Sport. Météo, la journée sera dans l'ensemble bien ensoleillée. Quelques voiles nuageux vont se développer dans l'après-midi, mais ils resteront inoffensifs. La bise va également être plus discrète aujourd'hui et les températures seront estivales. Elle patiente depuis 2 ans. Lucille Froidevaux s'apprête à remonter sur son cheval pour le marché concours. La manifestation qui célèbre ses 125 ans cette année débute demain à Seignelay-Gier et se termine dimanche. La cavalière de 19 ans a grandi avec la fête du cheval, mais ses premières courses remontent à l'édition 2019 avant la pandémie de Covid. Cette cuvée anniversaire sonne donc les retrouvailles entre l'habitante du Bémont et le marché concours. Elle participera aux courses campagnardes et au quadrille. Lucille Froidevaux trépigne d'impatience de retrouver ce rendez-vous franc-montagnard incontournable.
Très heureuse que ça recommence. Chaque année, on est très content d'arriver au marché concours, mais on est surtout content à chaque fois de recommencer les entraînements, la préparation, tout ce qu'il y a avant pour le marché concours. Vu que c'est le 125e, il y a pas mal de choses mises en place pour ce spécial marché concours. Alors on espère de faire un bon spectacle pour que tout le monde, les spectateurs, soient contents d'être venus.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant ces 2 ans de pause du marché concours à cause du Covid ?
On a fait une pause, oui, il n'y a pas eu de marché concours, mais avec le quadrille campagnard, on a chaque fois fait une petite présentation. Mais après, c'est juste l'ambiance, la convivialité des gens. C'est aussi de se retrouver entre éleveurs, entre passionnés du cheval, où c'est qu'on a tous le même centre d'intérêt.
Vos chevaux, ils ressentent aussi cette excitation du moment-là qui arrive ?
Oui, alors ils savent, ça fait plusieurs fois qu'ils participent, surtout mon cheval de course. Alors ils savent très bien pourquoi on l'entraîne et il attend aussi ce moment.
Lucille Froidevaux, était au micro de Nicolas Meusy. Le marché concours démarre dès demain et jusqu'à dimanche sur l'esplanade de la Alcantine à Seignelay-Gier. La fête des saisons fait son grand retour. Après 2 ans d'absence, la manifestation reprend possession des rues de Tavannes du 19 au 21 août. Cette année, elle a pour thème les inventions. 350 personnes défileront au traditionnel corso. Manège, animation pour enfants et restauration seront aussi au programme. Nous entendrons le président de la fête des saisons, Jonathan Hirt, sur cette nouvelle cuvée. Ce sera dans le journal de 18h. La confrérie des jardiniers présente dès ce soir son spectacle en plein air, Moutier côté jardin. La pièce se déroule sur une période de 2000 ans et raconte l'histoire de la Bible de Moutier-Grandval. Benoît Roche et Maxime Beltran sont les 2 metteurs en scène du spectacle. Les 2 hommes travaillent ensemble depuis des années et ne souhaiteraient arrêter leur collaboration pour rien au monde. On écoute d'abord Maxime Beltran.
C'est une chance, c'est vraiment une chance de pouvoir bosser à deux. D'autant plus qu'avec Benoît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Donc c'est une super belle opportunité. Et faut dire que la confrérie des jardins nous met à disposition beaucoup, beaucoup de moyens. Et donc ça permet d'aller vraiment très, très loin dans l'imaginaire et dans le champ des possibles.
C'est bien de s'entendre, évidemment, quand on est à deux. Hein. Faut, effectivement, c'est comme un couple, hein. Faut bien s'entendre. Mais effectivement, c'est très agréable parce qu'il y a tellement de travail et puis tellement de gens à diriger. Eh bien, au moins, on est 2 têtes et 4 épaules pour porter tout ça. Et puis, comme disait Maxime, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc on s'entend bien, donc on dit la même chose.
Vous voyez ça plutôt comme un avantage qu'un inconvénient, du coup ?
Oh, mais c'est un inconvénient, on ne l'aurait pas fait. Donc, évidemment, un avantage, parce que on se repose l'un sur l'autre, et puis c'est bien d'échanger des idées, parce que tout évolue en même temps, la mise en scène, l'écriture, les idées, les grandes images, etc. Et puis, comme on s'entend bien, tout va bien.
Des propos recueillis par Estelle Lichty. Le spectacle Moutier côté jardin est à voir jusqu'au 27 août à la rue de la Jeunesse à Delémont. Il a pris un virage à 180 degrés en devenant animateur pastoral. Comme tous les jeudis cet été, RJB part sur les traces de destins professionnels particuliers. Cette semaine, rencontre avec Rudy Crétin, originaire de Moutier. Ce père de famille de 35 ans était logisticien avant de débuter une formation dans la foi. Il nous explique comment il a décidé de changer de métier.
Tout d'abord, il faut y croire, évidemment. Et puis ensuite, je dirais, voilà, il y a un discernement à faire. Mais si on se sent à être à l'écoute de l'être humain, à son aide, et puis avoir la relation humaine facile, alors c'est une opportunité. Il faut une certaine adaptation, une organisation. C'est vrai qu'avec une vie de famille, j'ai un enfant qui aura 4 ans, donc il faut un petit peu s'organiser, revoir les choses, et puis être flexible, je dirais.
Pourquoi ce nouveau domaine? Pourquoi ce changement?
C'est issu d'un appel intérieur. C'est venu à la naissance de mon fils en 2018, lors de la préparation de son baptême, un petit peu de voir les choses, comment nous allions baptiser. C'est revenu un petit peu à moi. Tout ça m'est remonté, et puis j'ai pris ça comme un appel de Dieu auquel je devais répondre. Et puis j'ai donc fait les démarches pour pouvoir répondre du mieux possible à cet appel. Je suis issu d'une famille très catholique, ma maman donnait du cathède, donc je suis un peu tombé là-dedans quand j'étais petit, on va dire. Les grands-parents allaient beaucoup à la messe, c'est clair que ça vient de la culture familiale, quoi, le cathède, la prière à table, et puis ça nous suit tout au long de notre vie.
Quelle similitude est-ce que vous voyez entre le métier de logisticien et celui d'animateur pastoral ?
La rencontre avec les gens, parce que logisticien, vous rencontrez les chauffeurs qui arrivent, ce sont pas souvent les mêmes, donc ça permet de discuter, d'être un petit peu ensemble et pourquoi pas de partager un café. Donc là, on retrouve dans l'animation aussi des gens qui nous demandent de venir discuter avec eux, de les aider. Donc voilà, je dirais la relation humaine.
Qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans le travail de logisticien à la longue ?
Peut-être la partie physique pour faire la musculation, là, de bouger.
Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous anime au quotidien quand vous pensez à votre métier d'animateur pastoral ?
Que chaque jour, je vais rencontrer des gens bien différents, que ce soit des enfants, des plus jeunes, des personnes âgées. Et puis chaque jour sera une nouvelle découverte, c'est vraiment très différent. Et puis je vais apprendre surtout beaucoup des gens aussi. Évidemment, de donner le message de la Bible aux gens qui sont en attente de ce message, leur expliquer plein de choses là-dessus. Et puis profiter de ce qu'on peut vivre chaque jour pendant qu'on peut le vivre. Et puis voilà, avancer gentiment et puis avec foi, sans surprise.
Rudy Crétin répondait au micro de Thomas Christen. C'était le dernier épisode de notre série consacrée au changement de voie professionnelle et vous pouvez retrouver toutes les interviews sur notre site rgb.ch. Le monde du cinéma a les yeux braqués sur le Tessin. La 75e édition du Festival international du film de Locarno s'y tient jusqu'à samedi soir. Jacques-André Maire en a profité pour découvrir une multitude de réalisations helvétiques qui vont sortir dans les salles. Le président de Cinéforum cite notamment Last Dance ou La dérive des continents ou encore Lilo. L'ancien conseiller national neuchâtelois rappelle que sans le soutien financier de la Fondation romande pour le cinéma, ces métrages n'auraient probablement pas pu voir le jour. À Locarno, les échanges entre les professionnels de la branche portent notamment sur la manière dont la Lex Netflix, récemment adoptée par le peuple, sera appliquée. C'est un dossier qui suscite beaucoup d'espoir. Jacques-André Maire.
Si on s'adresse aux producteurs, aux réalisateurs, etc., ils sont très satisfaits, bien sûr, du succès de la loi Netflix. Par contre, il y a un domaine qui est très, très préoccupant, il ne faut pas le cacher, c'est du côté des exploitants de salles, parce que là, on n'a pas réussi à retrouver la fréquentation qu'il y avait avant le Covid. On a des baisses de fréquentation par rapport à 2019 et les exploitants sont très, très inquiets pour l'avenir.
Cette baisse de fréquentation, moins 35% hein, par rapport au premier semestre 2019, hors pandémie, comment est-ce que vous expliquez ?
Alors certainement que la population a pris de nouvelles habitudes. Hein. Alors, on sait que pendant la pandémie, les abonnements aux plateformes ont flambé et que les personnes ont pris l'habitude de consommer de l'audiovisuel, du cinéma à la maison. C'est jamais la même chose hein, que dans une salle. Donc là, il y a vraiment un défi à relever si on veut retrouver cette magie hein, de la salle de cinéma et essayer de faire revenir la population dans les salles. Il y a un travail qui peut se faire, bien entendu, auprès des jeunes, qui sont de grands consommateurs hein, sur les petits écrans. Il faudrait vraiment essayer de les attirer aussi dans ce lieu magique qu'est la salle de cinéma.
Jacques-André Maire, président de Cinéforum, la Fondation romande pour le cinéma, était au téléphone d'Adrien Juvet. Autre piste pour améliorer la fréquentation des salles romandes, un soutien plus appuyé à la diffusion des films. La Sberbank à Zurich semble bien se porter malgré les sanctions de la Confédération. Filiale de la plus grande banque de crédit en Russie, elle subit les conséquences de la guerre en Ukraine. Cet institut tente d'ailleurs de changer de propriétaire et de nom en Suisse. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad-Toulami.
Début août, l'autorité de surveillance des marchés financiers, la FINMA, indiquait prolonger des sanctions contre Sberbank Switzerland. Ces mesures prises en mars découlaient de l'agression militaire russe en Ukraine. L'interdiction helvétique d'effectuer des paiements et des transactions a cependant été partiellement levée cet été pour permettre à la banque d'honorer ses créanciers qui ne sont pas concernés par les sanctions internationales. Ce régime court jusqu'au 1er septembre. La FINMA a aussi nommé un enquêteur. Il surveille la stabilité financière de la banque à Zurich, sa garantie d'égalité de traitement entre les créanciers ainsi que son organisation. Contactée, Sberbank Switzerland nous a finalement répondu. Elle n'aurait licencié aucun employé et un processus pour changer de propriétaire majoritaire est toujours en cours. Cette procédure est supervisée par la FINMA. Celle-ci refuse de commenter un cas particulier et un projet en cours. Elle laisse cependant entendre que de manière générale, il est plus difficile pour une banque sous sanction de parvenir à de tels changements importants.
Près de 6800 hectares de forêt de pins étaient partis en fumée ce matin après des reprises de feu du gigantesque incendie de Landiras en Gironde. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du département du sud-ouest de la France. Près de 1100 sapeurs-pompiers sont engagés, a ajouté la préfecture, précisant que des renforts supplémentaires étaient encore attendus sur les lieux et des renforts qui pourraient venir de l'étranger. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce matin que l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide sur le front de l'incendie.
Il est midi 26.
Sport. Cyclistes et coureurs à pied se battront une dernière fois contre le chronomètre sur le col de Montvoix. Le contre-la-montre VTT, cyclisme sur route et course à pied se tiendra dimanche matin à Fontenay et ce sera la 16e et dernière édition, comme l'ont annoncé les organisateurs du GS Ajoie en début de semaine. Le CLM de Montvoix avait été lancé en 2007 après la disparition du prix cycliste d'Ajoie. L'épreuve qui avait attiré plus de 300 sportifs en 2020 va donc disparaître. Le comité d'organisation s'est essoufflé et n'a pas trouvé de repreneur, comme l'explique son président Franck Fleury.
On n'arrête pas la manifestation parce qu'elle n'a plus de succès, au contraire. Même pendant la pandémie, on a vu qu'on avait quand même de la participation, même un record en 2020. Mais c'est vraiment au niveau de l'organisation. Donc on a plusieurs membres du comité d'organisation, dont moi, qui avons décidé déjà l'année passée d'arrêter à contribuer à l'organisation de la course. On a cherché activement au sein du club et puis ben voilà, on a vu que voilà, on n'a pas pu réunir toutes les forces en présence pour organiser une telle manifestation. C'est jamais une décision facile hein, quand on en arrive à décider que c'est une dernière édition. Ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément la fin, mais vraiment tout ce qu'on a pu mettre en place depuis ces 16 ans. Voilà, c'est une aventure qui s'arrête avec le col de Montvoix. Ça a aussi un petit pincement au cœur parce que ben voilà, on a contribué depuis plus de 10 ans pour certains membres de l'équipe de l'organisation à cette manifestation. Mais on préfère s'arrêter sur une très belle note plutôt que d'essayer de tirer encore une à 2 ans en sollicitant des forces qui ne seraient pas forcément nécessaires.
Les courses du col de Montvoix se dérouleront donc dimanche matin. Les premiers départs seront donnés à 8h. Et cette année, le VTT, mais aussi la course à pied, compte pour le trophée jurassien. 4 clubs suisses sont engagés ce soir dans le 3e tour qualificatif retour des Coupes d'Europe. Football, on parle. Du côté de la Ligue Europa, Zurich pourra un peu gérer sur sa pelouse face à Linfield. Les footballeurs alémaniques s'étaient imposés 2-0 à l'aller à Belfast. En Ligue Conférence, Young Boys a peut-être aussi fait le plus dur face à Kuopio. Les Bernois l'avaient également emporté 2-0 en Finlande. Et battu chez les Danois de Bøndby 1-0, Bâle n'aura pas le droit à l'erreur, tout comme Lugano qui s'était incliné à domicile face aux Israéliens de Hapoël Beersheva 2-0. Le plateau d'Athlétissima est désormais bouclé. 14 champions du monde et 12 champions olympiques participeront au meeting d'athlétisme lausannois le 26 août. Les organisateurs annoncent aujourd'hui les participations comme dernier engagé des Jamaïcaines Cherica Jackson et Ellen Thompson-Herah qui défieront leurs compatriotes Shelly Ann Fraser-Pryce sur 100 mètres. Les présences de l'Américain Michael Norman, champion du monde en titre du 400 mètres, et du Libérien Joseph Van Buller élèveront le 200 mètres. Par ailleurs, la Néerlandaise Sifan Hassan, l'une des plus grandes championnes de tous les temps sur le demi-fond, disputera le 3000 mètres. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bel après-midi.